wonder whether we could be happy in a place like that.
Bonsoir, vous êtes bien sur Dégenré, l'émission pour déranger, un mercredi sur deux sur Radio Kaléidoscope. Bonsoir, donc vous êtes bien sur Dégenré et ce soir on a donc le thème de notre émission, c'est sexisme et racisme en Kanaky. Alors en Kanaky, pour les gens qui situeraient pas bien, donc c'est en Nouvelle-Calédonie. Et donc c'est une sorte d'émission donc on fait pas souvent, parce que c'est vrai qu'on a plutôt tendance à parler de ce qu'on connaît, des réalités qui nous sont proches, en tant que femmes occidentales, etc. Mais que voilà, on a vraiment envie de donner la parole au plus de femmes d'horizons divers. Et donc là, on avait une bonne occasion. C'est l'idée, c'est de pas de se dire que oulala, la situation là-bas, elle est horrible, et chez nous, c'est quand même vachement mieux. Je pense que il y a beaucoup de liens aussi à faire entre les réalités là-bas et ce qui peut se passer chez nous. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est de voir aussi comment, à travers ces réalités communes, on peut trouver des formes de solidarité qui font que on ne laisse pas ces situations-là nier, et que en tant que femme, on peut aussi reprendre un peu un pouvoir sur nos vies. Alors ce soir, du coup, avec nous pour parler un peu de tout ça, et qui une personne qui a participé aux enregistrements, donc c'est Aude. Bonsoir.
Bonsoir. Peut-être je peux rajouter juste un petit mot pour dire que peut-être que cette réalité-là, la Kanaky, la Nouvelle-Guinée, c'est loin de chez nous. Mais en même temps, Hélène, qui va en parler tout à l'heure avec moi, elle en parle parce que c'est proche de ce qu'elle a vécu. Elle y était en Kanaky, elle y a rencontré des gens, elle a vécu dans une famille Kanak. Et ce qu'elle raconte, elle ne l'a pas trouvé dans des livres, quoi. Elle l'a vu en direct avec des personnes qu'elle a connues, avec qui elle a encore des contacts. Et c'est important pour nous de rappeler que si on parle de choses qui, peut-être géographiquement, sont un peu loin de Grenoble et de la France... Elles sont proches par plein d'aspects et en premier lieu par les vécus communs.
Alors pour débuter cette émission, on va vous lire un petit texte d'une auteure qui s'appelle Dewe Gorodé. Donc je sais pas si tu peux nous en dire plus, Aude.
Alors en fait, Dewe Gorodé, elle est Kanak, elle est née là-bas en Nouvelle-Calédonie, en Kanaky, et elle a fait des études à Montpellier en France. Oui, je rappelle, ça sera répété après, mais que la Nouvelle-Calédonie, c'est une colonie française, encore aujourd'hui. Et elle est revenue ensuite, donc, en Nouvelle-Calédonie, et elle a milité pour l'indépendance des Kanaks, d'abord au sein d'un groupe qui s'appelle les Foulards Rouges, puis dans le groupe 1878, qu'elle a fondé avec d'autres camarades. Alors, dans ses premiers textes, elle parle de l'éclatement des clans Kanaks, de l'unité retrouvée dans la lutte indépendantiste, et puis toujours des paroles de femmes, de la position des femmes dans la société kanak et dans la société coloniale française.
Au fil du temps, elle m'initiait aux travaux des champs, tels que le brûlis, le sarclage, le désherbage. Elle prenait beaucoup de son temps et amassait des trésors de patience pour me montrer comment labourer, émoter, retourner la terre, comment la préparer pour la culture de l'igname et du tarot, sans oublier les gestes et les paroles rituelles à la pluie, à la lune, au vent et au soleil. Ma grand-mère, Ute Murunu, m'enseignait ainsi les voies de la terre à travers celles de la mère, celles de la femme. Et elle s'adressait en premier lieu à nous, les femmes qui, mieux que personne, pouvions les comprendre. Porteuses de semences, nous étions lardées d'interdits, marquées de tabous comme autant de pierres pour obstruer la vie. Ornières de plaisir, nous devenions des Eva mordues par le serpent, inventées par les prêtres de la nouvelle religion. Adi, perle noire du mariage coutumier, nous étions échangées comme autant de poteries, scellant une alliance entre deux guerres. Voies et pistes interclaniques, nous survivions tant bien que mal à nos enfances et à notre puberté trop souvent violée par des vieillards en état de lubricité. Prestige, virilité, guerre, des concepts mâles pour la grande case des hommes bâtis sur le dos large des femmes. Partage, solidarité, humilité, paroles féminines conçues, nourries, portées dans nos entrailles de femmes battues. Oh, tu le sais déjà, petite sœur, ce monde érigé sur notre ventre, nos bras, notre tête, cet univers parasitant notre corps, n'est qu'un leurre qui nous force à la soumission. Mais il est tout aussi vrai, petite mère, que tous les hommes ne sont que nos fils. Et si nous n'avons pas demandé à venir au monde, si nous n'avons pas choisi de naître femme, nous n'avons qu'une vie, ici et maintenant. Alors tentons au moins de la vivre au lieu de la subir. Marchons sur les traces de Kaapo, notre princesse de légende kanak, qui ouvrit bien des brèches à ses risques et périls, qui se fraya tant de chemins contre vents et marées. Soyons toutes des Kaapo. Petite sœur, nous allons bientôt quitter ces lieux, toutes les deux, moi définitivement et toi pour quelques années. Tu ne me verras pas mourir, tu ne m'enterreras pas, tu me pleureras au loin. Et moi, je n'ai rien d'autre à te laisser que nos heures passées, nos tâches partagées, nos rires dérobés à l'inexorabilité du temps. Je n'ai rien d'autre à te léguer, petite mère, que ma voix qui s'essouffle, les paroles édentées des histoires de ma vie ou de l'histoire de mes vies. Écoute-les, écoute-la donc pour la première et la dernière fois encore, afin de la raconter un jour à ta petite fille, à notre future Ute Murunu, que tu nommeras ainsi en notre mémoire. Peu après le retour à la terre de notre grand-mère, Ute Murunu, qui s'éteignit au tout début de ce siècle, nos pères et grands-pères m'accompagnèrent chez nos utérins de l'autre côté, pour m'offrir à l'un de nos vieux cousins, polygame, dont je devins alors la plus jeune femme. Bien que notre grand-mère m'eût appris beaucoup de choses concernant notre vie, à nous, les femmes, j'étais à peine pubère, et aucun garçon ne m'avait encore approchée. Les grands-mères, tantes et sœurs aînées qui étaient là, les premières épouses, se chargèrent donc de parfaire mon éducation. Dernière venue dans la case des femmes, j'y étais également une enfant, une bouche, deux bras de plus. Les unes et les autres me nourrissaient, m'épouillaient, me soignaient. Les unes et les autres m'ordonnaient les tâches quotidiennes, m'emmenaient au champ, m'initiaient au tissage et à la vannerie, m'apprenaient les récits du clan, les chants et les danses des femmes. Ce fut la plus vieille d'entre elles que j'aimais, parce qu'elle me rappelait Gué Murunu, qui m'accompagna au fil des nuits dans la case de notre grand cousin. Au moment de quitter les lieux, de quitter les autres, elle leur lançait doucement en souriant. « Nous deux, nous allons imaginer la suite de nos contes, là-haut. » Ou bien « Nous allons jouer là-haut. » Ou encore « Vous autres, restez ici, parce que nous deux, nous allons leur frotter le dos, là-haut. » Elle répondait sous des rires étouffés. « Oui, c'est ça, et vous nous raconterez bien cet épisode demain. »« Oui, mais gare aux jeux dangereux. » Et « Frottez-leur donc bien le dos aux anciens, là-haut, de peur qu'ils ne nous écrasent toutes. »
Ciurma nemica di una galera infame, su cui ratta la morte viene per lenta fame, ma gli orizzonti limpidi schiude la nostra aurora, e sulla tolda squallida urla la scorta ognora. I nostri dì si involano tra fetide carene, a magri smonti schiavi chiusi in ferre catene, cose gementi schiavi questo remare mare, meglio morir tra i frutti sul biancheggiar del mare. Premi un finché la nave si schianti sui frangenti, altre le rosso lette sibilar dei venti. Su schiavi allarmi, allarmi, pugni ancor braccio forti, giuriam, giuriam, giustizia, o libertà, o morte. E sia pietosa col trece, l'onda spumosa e ria, ma sorgam vise martiri, sol dell'anarchia. Forse l'andò lontano, ci darà un sol fermento, potrò di tornare, ma sopra il sol redento. Potrò di tornare, ma sopra il sol redento.
Alors voilà. On va commencer, donc notre idée à nous deux, Hélène et moi, Aude, c'est de raconter un peu la situation des femmes en Kanaky, en Nouvelle-Calédonie, à Lifou, sur la base du travail que toi, Hélène, tu fais depuis quelques années à l'université.
Ouais, en fait, déjà précisé, Lifou, c'est une île de la Kanaky, donc... qui s'appelle la Nouvelle-Calédonie actuellement. La Nouvelle-Calédonie, c'est une colonie française qui est dans le Pacifique Sud, au nord de l'Australie. Donc c'est en Mélanésie et c'est un pays qui est en voie d'indépendance, c'est-à-dire que les Kanaks, qui sont la population autochtone, revendiquent l'indépendance depuis une trentaine d'années maintenant. Et voilà, c'est une communauté d'outre-mer qui vote par référendum successif l'indépendance possible de ce pays.
Alors notre idée, c'était pas de faire une dissertation universitaire, mais justement de trouver un moyen d'échanger, de transmettre un peu cette histoire ou ces histoires de femmes en Kanaky aujourd'hui. Alors on va commencer, Hélène, tu vas commencer par nous raconter l'histoire de Wasidja, qui est une femme Kanak. C'est pas une vraie femme, c'est une femme un peu virtuelle. C'est une histoire qu'on a essayé de composer sur la base de plusieurs témoignages que tu as recueillis, de femmes que tu as rencontrées là-bas, et de faire avec ça l'histoire d'une femme qui représente le parcours de pas mal de personnes que tu as rencontrées. Donc toi, tu vas raconter ça. J'essaierai de te poser un peu des questions. Après, on va essayer de revenir sur, à partir de ces histoires, qu'est-ce que ça raconte de la situation là-bas, et puis aussi de chez nous. Qu'est-ce qui se passe chez nous, en France, à Grenoble, ailleurs. Puisque l'idée pour nous, c'était pas de parler des pauvres femmes ailleurs, là-bas, très loin, de l'autre côté du monde, qui seraient, je sais pas quoi, moins civilisées ou dans des situations de vie plus dures, mais de voir en quoi ça fait vraiment écho à ce qui se passe chez nous et comment on est lié à ces histoires.
Alors, Wasidja, c'est une femme qui a environ 40 ans aujourd'hui et qui est née à Lifou, donc dans un village, dans un petit village. Elle vivait dans sa famille en situation d'autosubsistance.
Alors, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est l'autosubsistance?
C'est-à-dire que à Lifou, quand on est dans un clan à Lifou, ce clan a des droits sur des terres coutumières en fait, parce que Lifou c'est une réserve indigène entière, donc il n'y a pas de propriété privée. Et chaque personne a le droit de demander d'avoir une case, enfin un terrain pour construire une maison et un terrain pour cultiver. Donc et les gens vivent de leur production vivrière agricole et de la pêche aussi. Donc les parents, enfin la famille de Wasidja en tout cas il y a 40 ans vivait exclusivement de ça. Et Wasidja me raconte son enfance comme quelque chose de très fort et de très chouette, parce que dans le village il y a tous ses cousins cousines qu'elle appelle frères et sœurs, il y a énormément de solidarité. Il y a beaucoup d'échanges et pas d'inégalités matérielles entre les gens du village, donc c'est un moment très chouette. Et Wasidja, quand arrive la puberté, en fait, c'est un moment où le mariage coutumier obligé est en train d'être mis en cause. Et jeune fille, elle tombe amoureuse d'un homme et elle... décide de se marier avec lui. Donc cet homme va demander à la famille de Wasidja si si c'est possible, enfin son clan vient demander au clan de Wasidja si c'est possible qu'ils se marient, et comme c'est des clans qui ont des alliances qui sont, c'est bien qu'ils se marient entre eux, la famille de Wasidja accepte, et voilà, et les deux familles commencent à préparer le mariage.
Ce que tu veux dire, c'est que là, il y a une période où elle peut choisir son mari, même si ça rentre encore dans un fonctionnement coutumier où les familles sont prises à partie et organisent le mariage, alors qu'avant, je sais pas, il y a quelques décennies, les femmes kanak ne choisissaient pas leur mari.
Et les hommes kanak non plus, c'était les familles qui choisissaient, qui mariaient les enfants. Donc c'était pas... il n'y avait pas de choix en fait, c'était que des mariages coutumiers. Aujourd'hui, on laisse plus le choix, mais si c'est des clans qui sont vraiment pas des bons alliés, voire il y a des clans interdits pour lesquels on ne peut pas se marier, donc c'est un choix qui change en fait pas trop les normes matrimoniales, hein, finalement. Et voilà, et pendant que le mariage se prépare, c'est-à-dire que la famille du garçon travaille pour payer la femme, c'est-à-dire en biens matériels comme des ignames, des tissus.
Qu'est-ce que c'est des ignames ?
Des ignames, c'est des grosses patates locales qui sont le légume sacré de l'Ifou et le principal plat de subsistance. Et aussi aujourd'hui, comme les gens de l'Ifou travaillent, il y a aussi des sommes d'argent. Et donc créer en fait tous ces pendant un an, ils travaillent à faire toutes ces séries de dons pour créer l'alliance entre les deux clans. Et durant cette période, Wasidja se rend compte que l'homme dont elle est amoureuse est violent, c'est-à-dire la frappe ou impose une sexualité à Wasidja. Et donc elle déchante et veut annuler le mariage. Et à ce moment-là, il y a ses oncles maternels, c'est-à-dire les frères de sa mère, qui viennent lui expliquer que c'est trop tard et que c'est pas possible. Et parce que toutes les familles sont déjà en train de travailler pour leur mariage, et que en fait eux, si ils ont beaucoup d'autorité sur elles, parce que ils sont, on dit que c'est eux qui détiennent le pouvoir sur le sang de Wasidja, et que si ils sont pas d'accord avec ce qu'elle fait, ils ont le pouvoir de la maudire et qu'elle tombe malade. Donc c'est une parole qui est très importante. Et il lui explique aussi que en fondant une famille, en assumant ses devoirs de femme, son mari va se calmer parce qu'il va être heureux dans ce mariage. Wasidja se marie donc et fait 5 enfants, dont des garçons à son mari, au clan de son mari. Elle donne ses enfants et au clan de son mari, on dit. Et assume ses devoirs, c'est-à-dire produit ses enfants, les élève, les nourrit, assume une grosse partie de la production vivrière, c'est-à-dire le travail quotidien au champ. Et l'ensemble des tâches domestiques au sein de la famille de son mari.
Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait, le mari ?
Lui, il fait quelques travaux comme la pêche ou quelques travaux au champ. Mais lui, c'est un homme qui a des hautes fonctions coutumières, donc qui s'occupe de la gestion politique de l'Ifou, et qui est aussi un homme qu'elle admire beaucoup parce qu'il est très engagé dans des luttes politiques indépendantistes kanak, qui travaille beaucoup pour le pays... qui est très engagée. Et elle, malgré le fait qu'elle remplisse tous ses devoirs de femme, qui fait qu'elle a le soutien de sa communauté, et entre autres, dont un devoir, c'est de ne pas se plaindre et de tout faire avec le sourire, son mari reste violent, voire de plus en plus, lui explique que c'est comme ça et que son père était comme ça et que les femmes, de toute façon, elles n'ont rien à dire. Et donc Wasidja souffre énormément de cette situation et va chercher du réconfort, par exemple, dans l'association religieuse de femmes du village, avec qui elle trouve un soutien parce qu'elle peut sortir du foyer, discuter avec des femmes, trouver des petits revenus en tressant des vanneries, des choses comme ça. Et donc de sortir un peu de son cadre familial difficile. Mais jusqu'au jour où son mari, parmi les violences, manque de la tuer. En fait, il lui a brisé... Enfin, elle a eu une fracture au crâne. Et donc là, elle décide de divorcer pour sauver sa peau. Et c'est un choix qui est très contesté par la communauté, parce que dans la coutume, c'est interdit de divorcer. Parce que divorcer, ça veut dire rompre l'alliance entre deux clans. qui fait que ça pose des gros problèmes aux deux clans. Et elle perd aussi le soutien de l'association de femmes religieuses.
Qu'est-ce que c'est comme religion ?
C'est protestant. Parce que dans les religions chrétiennes, c'est interdit de divorcer aussi. Et ce qu'il y a de pire pour Wasidja, c'est qu'en fait, comme on dit qu'elle donne ses enfants au clan du mari, elle abandonne ses enfants. Elle est obligée de partir et de laisser ses enfants au clan de son mari. Et alors que ça fait 15 ans qu'elle consacre sa vie à ça, à ses enfants, à les élever, etc. Donc Wasidja, sur l'île de Lifou, elle subit beaucoup de pression parce qu'elle fait donc un acte qui est interdit. Et elle part à Nouméa en espérant trouver une vie un peu meilleure, qu'il y ait un peu moins de pression sociale. Mais le problème, c'est qu'à Nouméa, elle ne peut pas cultiver de champs, elle ne peut pas se loger gratuitement. Et elle doit donc trouver un travail, mais elle n'a pas de formation. Donc ce qu'elle trouve comme travail, c'est femme de ménage ou bonne à tout faire dans une famille de caldoches.
Qu'est-ce que c'est, des caldoches ?
Les caldoches, en fait, c'est les pieds noirs locaux, c'est les descendants des colons de Nouvelle-Calédonie. Et en général, c'est eux en Nouvelle-Calédonie qui ont la mainmise sur l'industrie, sur l'agriculture, et c'est des familles assez riches. Et donc, ils engagent des femmes de ménage, des bonnes à tout faire. Quand on dit bonnes à tout faire, ça peut être vraiment à tout. Et elle se retrouve à travailler 12 heures par jour en étant sous-payée, non dans une ville où elle est loin de sa famille d'origine et de sa culture.
Alors voilà, t'as un peu fini cette histoire pas vraiment très marrante. Et peut-être on pourrait revenir dessus, parce que en tout cas pour moi ça ouvre plein de questions sur pourquoi est-ce qu'elle a pas trouvé plus de soutien dans sa communauté, pourquoi elle se trouve obligée d'en partir. Dans quelle situation elle vit à Nouméa et en quoi cette situation elle est aussi violente, ou en tout cas d'une autre manière que celle qu'elle vivait dans sa communauté. Et puis qu'est-ce que ça a à voir avec chez nous, quoi ? Qu'est-ce que ça a à voir avec notre culture à nous, avec ce qu'on vit nous ? Ou comment la culture française colonisatrice est très présente dans sa vie à elle. Voilà, on pourrait peut-être passer à ça.
Eh mutoto ye ye, eh mutoto ye, eh mutoto ye, il faut m'acheter. Eh mutoto ye, il faut aller m'acheter. Il était mutoto, qui allait tout marcher, ouais. Elle votait mutoto, l'ignan de son fatigue, l'ignan faisait. Gali, 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 go, go, l'ignan faisait. Gali, 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 go, l'ignan faisait. Gali, 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 go, go, l'ignan faisait. Gali, 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 go. Les filles faisaient, et quicky, et quicky, et quicky. Les filles faisaient, et quicky, quick, quick, quick. Les filles faisaient, et quicky, et quicky, et quicky. Les filles faisaient, et quicky, quick, quick, quick. Et tout ça, tout l'aime. Qui rentrait du marché, ouais. Elle pensait moutoto, que les rythmes étaient très gai. L'ignan faisait gali, 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 go, go. L'ignan faisait gali, 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 go. L'ignan faisait gali, 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 go, go. L'ignan faisait gali, 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 go. Les filles faisaient et cliqui, et cliqui, et cliqui. Les filles faisaient et cliqui, quick, quick, quick. Les filles faisaient et cliqui, et cliqui, et cliqui. Les filles faisaient et cliqui, quick, quick, quick.
Et tout ça, tout l'aime. Je dis, et tout ça, tous les samedis.
Il était mutoto qui était fatigué, ouais. Elle voulait mutoto tout simplement rentrer. L'ignan faisait gali, 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 go, go. L'ignan faisait gali, 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 go. L'ignan faisait gali, 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 go, go. L'ignan faisait gali, 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 go. Les filles faisaient et quicky, et quicky, et quicky. Les filles faisaient et quicky, quick, 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 quick. Les filles faisaient et quicky, et quicky, et quicky. Les filles faisaient et quicky, quick, 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 quick. L'ignan faisait gali, 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 go, go. L'ignan faisait gali, 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 go, go, go. L'ignan faisait gali, 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 go, go.
Nina Fest, Gadi Gadi Gadi, go go go, Leffy Fest, a quickie, a quickie, a quickie, Leffy Fest, a quickie, quick, 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 quick.
Alors, pour reprendre l'histoire de Wasidja, moi j'avais envie d'abord de rappeler comment cette histoire elle m'évoque vraiment ce qu'on peut vivre chez nous, quoi. Cette histoire d'autorité maritale, d'autorité du mari dans la famille. C'est quand même très proche de trucs qu'on vit au quotidien et pas que il y a 30 ans, quoi. Comment le mari, le père, garde la décision dans la famille, comment il a un rôle d'autorité et comment c'est sa femme, ses filles sont soumises.
C'est pas pour rien en fait que ça ressemble, c'est parce qu'en fait on a la même religion. C'est-à-dire que le couple en France, comme en Kanaky, il est organisé par les religions chrétiennes. Et petit rappel, dans les religions chrétiennes, qu'est-ce qu'on dit ? Donc, on dit déjà qu'il faut un couple à deux, que dans la famille, l'homme c'est la tête et la femme c'est le corps. Et donc, il faut que l'homme contrôle la femme parce que c'est le corps c'est mal en plus, hein, n'oublions pas. Et on dit aussi que c'est l'homme qui décide, que la femme doit être soumise à l'homme comme l'homme à son Dieu. On dit aussi, donc en fait, que c'est l'homme qui a la décision finale sur ce qui se passe dans la famille. Et Alifou, c'est très présent. Et aussi, Alifou, donc l'homme a la décision finale sur la gestion de la famille. Et on dit Chaman la mousse, c'est-à-dire c'est lui qui a tous les droits en fait, qui a le droit, qui a voire presque tous les droits.
Pour vous revenir peut-être sur cette comparaison, peut-être, je sais pas, si je disais ça comme ça demain avec des amis chez moi ou dans la rue, peut-être qu'on me dirait mais non, c'est pas vrai, chez nous, l'homme il a pas autant de pouvoir, etc.
Ouais, c'est vrai qu'en France, l'homme est censé avoir moins de pouvoir, mais il y a toute la psychologie. Qui a repris cette idée en disant oui, l'homme, la femme doit être la maman, elle est douce, et le papa, il apporte le versant autoritaire, et ça reste très très présent. C'est encore très fort chez nous. Et justement, moi, quand je suis revenue de ma première enquête, donc avec tous ces témoignages de femmes qui m'expliquaient comment ça s'organisait en citant des passages de la Bible, hein, disant oui, c'est l'homme qui décide, mais regarde, c'est écrit dans la Bible, la femme doit être l'aide de l'homme. C'est lui qui décide au foyer, etc. Et en fait, quand je suis revenue, j'ai fait lire mon mémoire à ma grand-mère. Et elle m'a dit, mais c'est fou ce que ça me fait penser à ma vie. Par exemple, le devoir conjugal, de ne pas pouvoir refuser des services sexuels à son mari, tout ça, c'est ce que j'ai vécu. Et moi, en retour, ça m'a beaucoup questionnée à comment, dans notre pays... Et eh bien, il y a quand même il y a eu une avancée des femmes. Et j'ai redécouvert en partant que notre pays, ça fait 150 ans qu'il y a des luttes féministes et qu'elles ont eu aussi des effets. Et entre autres, quand même, un détachement vis-à-vis du couple chrétien. Et c'est. Et le droit d'avoir le droit de divorcer, d'avoir le droit de dire non, le droit de porter plainte. C'est quand même des choses qui ont été acquises par des féministes mais qui sont encore très fragiles. Dans ma propre culture. Et c'est vrai que ce partir un peu au loin, ça m'a permis de redécouvrir ma culture chrétienne, quoi. Et comment cette culture chrétienne instaure dans le couple la soumission de la femme à son mari.
Alors j'aimerais bien poser une dernière question, peut-être pour la développer un peu plus tard, sur finalement le lien entre cette histoire de religion, là, de christianisation, d'ailleurs. Comment est-ce que les Kanaks ont été christianisés? Et puis, la colonisation, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est nous qui avons apporté le christianisme, le protestantisme en Kanaky? Et puis, voilà quoi. C'est quoi le lien entre ces deux trucs-là? Et là, on parlait...
Oh. στα φλογισμένα σώματα των βροχών.
Hélène, on parlait à l'instant de la christianisation de la religion, de comment elle marque, elle donne son empreinte, elle marque de son empreinte les rapports de couple, la structure familiale, les clamiques, etc. J'aurais bien voulu qu'on revienne maintenant sur la colonialisation, en fait. Parce qu'à mon sens, de ce que j'en comprends, c'est un peu lié. La religion chrétienne, c'est quand même les occidentaux et les colons. Qui l'ont emmené dans ces endroits-là.
Ouais, alors en Kanaky, il y a une histoire assez spécifique de la colonisation, c'est-à-dire que quand la France a colonisé cette île, donc qui est composée d'une grande île et de quelques petites autour, en fait, l'État français a considéré que c'était une terre vierge. C'était une colonisation de peuplement, c'est-à-dire que les habitants, on n'en a absolument pas tenu compte. Voire, au début, on croyait qu'ils allaient tous mourir sous l'effet des maladies. Ensuite, on s'est rendu compte qu'ils ne mourraient pas tous, donc il y a eu ce qu'on appelle le code de l'indigénat, qui a considéré que cette population était à l'état le moins avancé de civilisation, donc c'était des barbares parce que il y avait de la polygamie, il n'y avait pas de propriété privée, donc ce qui est quand même l'horreur du point de vue de l'État français. Et en plus, il y avait du cannibalisme guerrier, donc ils ont été considérés presque comme incivilisables.
Qu'est-ce que c'était le cannibalisme guerrier? C'est-à-dire qu'ils mangeaient des parties du corps de leurs ennemis quand ils étaient en guerre ou quelque chose comme ça?
Ouais, c'est-à-dire que quand il y avait des morts à la guerre, quand un clan tuait une personne d'un autre clan, on en mangeait des parties. Donc dans des rituels. Sur des gens déjà morts. Bien sûr. Voilà. Mais bon, ça arrangeait bien aussi l'État français d'avoir cette terre à la fois pour construire un bagne, d'ailleurs où il y a pas mal de gens de la commune qui ont été envoyés, et aussi pour déporter un peu des paysans ou des ouvriers français pour leur donner des terres là-bas.
Tu parles de la commune de Paris, c'est-à-dire que cette colonisation, elle a eu lieu au 19e siècle.
Ouais, c'était dans les années 1860-1870. Enfin, ça s'est fait par étapes, bien sûr, mais ça vraiment... C'était déclaré colonie française à cette époque-là. Et sur la Grande Terre, donc les Kanaks qui habitaient sur la Grande Terre, ils ont été parqués dans des réserves, donc des petits terrains relativement non fertiles. Et toutes les terres fertiles et riches ont été spoliées, ont été volées. Et sur les îles, comme il n'y avait pas de richesse, on ne pouvait pas faire d'agriculture, il n'y avait pas de richesse minière spéciale. Ça a été déclaré réserve indigène, donc c'était plus tranquille sur les îles. Et, mais sur donc, les îles là où je travaille, parce que moi je connais pas bien l'histoire de la Grande Terre, qui est une histoire bien plus violente que celle sur les îles, parce que l'administration française s'est bien plus reposée sur les structures de chefferie qui existaient déjà dans les îles pour asseoir leur domination coloniale.
Et il n'y a pas eu de vol de terre sur les petites îles
par rapport à sur
la grande terre.
Pourquoi il n'y a pas eu de vol de terre? Parce que c'était moins intéressant,
parce qu'il n'y avait pas de richesse. Ouais. Il n'y avait pas de richesse importante. Donc voilà, puis c'était bien plus petit. Et peut-être que les chefferies étaient très structurées aussi. Et sur les îles, en fait, je vais parler de la christianisation là où je connais un peu l'histoire de la christianisation. En fait, la christianisation s'est faite il y a 150 ans, donc avant la colonisation. Et à Lifou, elle s'est faite par des missionnaires tongiens des îles Tonga. C'est-à-dire les îles Tonga ont été christianisées par des missionnaires anglais protestants. Et ensuite, donc la religion est arrivée par des missionnaires du Pacifique, en fait, des gens du Pacifique. Et les chefferies d'alors, en fait, ont vu que la religion, les religions chrétiennes, étaient des outils de pouvoir intéressants, et puis ça amenait aussi toute une technologie. Et donc, ont adopté cette religion. Ça a été une christianisation adoptée. Et certains éléments de cette religion ont été adoptés dans l'organisation sociale, et d'autres assez peu. D'ailleurs, on garde toutes les représentations mythiques d'avant. Enfin, ça n'a pas éradiqué une ancienne religion pour mettre une nouvelle. Par contre, ça a transformé la structure sociale, ça, et dont le couple. Et on peut se demander si le fait que ce soit une société très patriarcale, ça a été imposé par la religion chrétienne. Mais quand on voit sur les îles voisines en Mélanésie, où il y a une forte domination masculine, on va dire traditionnelle, on peut se dire que les aspects patriarcaux de la religion chrétienne ont été bien adoptés, acceptés, parce qu'ils faisaient écho à une situation très patriarcale auparavant, quoi. Donc c'est une transformation de forme, un peu d'idéologie, mais des rapports hommes-femmes relativement similaires, à mon avis, mais on n'a pas de documents sur ça. On peut pas trop savoir. Mais toute cette histoire non coloniale extrêmement violente, qui considérait donc les Kanaks comme des barbares, a encore aujourd'hui des répercussions, c'est-à-dire que le racisme en Nouvelle-Calédonie est extrêmement fort aujourd'hui encore.
Et alors, est-ce qu'on considère encore les Kanaks comme des barbares?
Oui, oui, complètement. C'est-à-dire que moi, alors que je faisais des études d'ethnologie, que j'allais habiter avec des Kanaks, on sait que je m'intéressais réellement à leur culture, les gens me disaient ouvertement qu'ils ressemblaient à des singes, que c'était des barbares, qu'ils n'avaient pas encore ni de notion du temps, ni de notion d'espace, alors que il y a depuis très longtemps des intellectuels extrêmement brillants. Enfin, c'est... Et dans notre culture, dans leur culture, c'est... Enfin, c'est incroyable, quoi, ce racisme extrêmement virulent, mais qui... Jusque dans les années 60, il y avait une énorme ségrégation, un apartheid avec un couvre-feu pour les Kanaks, interdiction de sortir des réserves, ils n'avaient pas le droit aux mêmes traitements médicaux, enfin, c'est... Il y avait du travail forcé sous le code de l'indigénat, donc c'était une société extrêmement violente. Et aujourd'hui encore, ça se retrouve à Nouméa extrêmement fortement. C'est très très présent, il y a des endroits où il n'y a pas de Kanaks qui rentrent, des magasins où c'est interdit. Mais ça a légèrement changé, c'est-à-dire qu'avant on disait carrément que si ils pouvaient tous mourir, ça serait mieux pour la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, on se dit, bon, ils vont s'occidentaliser, se civiliser, et on tombe dans un racisme développementiste qui est très présent dans le discours de tous nos politiciens.
Mm-hmm. Ça, je trouve ça intéressant, en fait. Moi, je trouve ça... Tu dis racisme développementiste, on pourrait dire aussi évolutionniste. Moi, ça me rappelle vraiment ce que j'ai pu apprendre un petit peu à l'école sur les différents types de colonialisme, en fait, et de culture du colonialisme. Et de ce colonialisme à la française, qui est un colonialisme qu'on pourrait dire messianique, c'est-à-dire qui va apporter la bonne parole aux peuplades colonisées, ou à un moment donné, l'universalisme à la française, cette espèce d'idéologie de la République française qui détient les savoirs les meilleurs et universels, va aller dans le monde pour éduquer et faire évoluer les peuplades inférieures. Et c'est une sorte de culture coloniale qui prétend à l'universalisme, c'est-à-dire qui dit nous sommes tous pareils dans l'absolu, les savoirs que nous avons sont valables pour tous, mais simplement nous sommes les seuls à le savoir. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une différence entre nous et les personnes qu'on colonise. C'est-à-dire que ces personnes qu'on colonise ont du retard. Elles vont pouvoir arriver petit à petit à être dignes d'être, par exemple, des citoyens français ou des citoyens du monde, je sais pas quoi. Mais pour l'instant, il faut qu'on les éduque et on va justifier, légitimer un rapport d'oppression, colonisation, d'encadrement strict de ces populations. Parce que nous, nous savons, on est les bons pères blancs qui allons leur expliquer la vérité sur le monde et comment on doit se comporter et quelles sont les valeurs universelles, quoi. On va leur apporter nos droits de l'homme en nous disant, voilà, c'est nous les créateurs des droits de l'homme. On les détient, vous ne le savez pas encore, mais ce sont les valeurs universelles. Et je trouve ça assez intéressant de rappeler ça, parce que c'est quand même quelque chose qui fonde encore ultra fort nos mentalités en Occident, et particulièrement en France, cette idée qu'on serait au centre du monde et qu'on aurait les vraies valeurs pour nous. Et où on peut dire en même temps, mais nous ne sommes pas racistes, chacun peut y accéder, et en même temps rester persuadé que tous les autres ont du retard, quoi. Nous avons la vérité, nous sommes les seuls à l'avoir. C'est pour ça que je parlais de messianisme, et même pour parler de la République, quoi. Et ouais, pour finir, je trouvais ça intéressant de mentionner ça, pour éclairer un peu la position des colons en Nouvelle-Calédonie, et de le comparer à d'autres approches, comme celle des Anglais, qui sont plus de ségrégation, plus stricte, où ils sont restés sur un rapport d'apartheid, où il y a nous et notre culture, et puis les barbares, et à aucun moment ça se mêle, quoi, à aucun moment ça se mélange, parce que on n'est juste pas de même nature, on n'est pas dans une pensée universalisante, blablabla, où serait un intérêt au-delà de l'argent, du profit mercantile. D'évangéliser ou d'éduquer les populations colonisées.
Moi, ça me fait penser aussi à parce que bien sûr, dans la société française, en fonction de plein de choses, de sa classe sociale d'appartenance ou je sais pas, il y a différentes formes de racisme. Hein, donc, ça se développe sur différents tableaux. Et il y a aussi quelque chose que je trouve assez raciste. De racisme de gauche, de la personne qui se rend compte qu'on a un rapport colonial et de domination sur les autres pays, et qui reposerait sur le mythe du bon sauvage. C'est-à-dire, bon, ils sont toujours sauvages, mais ils sont meilleurs que nous. Et donc on dévaloriserait notre société, et on donnerait une image magnifique et puérile des autres sociétés en disant, il faut que nous retournions à cet état-là. Et moi, dans ma démarche ethnologique, bien sûr, si j'ai envie de m'intéresser réellement à comment s'organisent d'autres sociétés, à aller vivre avec les gens là-bas, etc., c'est bien sûr parce que j'avais cet espoir de trouver une société meilleure que la mienne, enfin, ou autrement, autre chose, d'autres façons de penser. Et c'est sûr qu'il y a des choses, moi, que je trouve fascinantes et très intéressantes dans d'autres modes de fonctionnement. Mais ça ne veut pas dire que dans les sociétés qui sont colonisées, il n'y a pas au sein de ces mêmes sociétés des structures de domination qui sont fortes, qui sont traditionnelles. Et entre autres, la domination des hommes sur les femmes à l'IFU, c'est quelque chose qu'il ne faut pas ne pas voir sous prétexte d'une bienveillance merveilleuse envers les bons sauvages.
Vozes e suspiro, e na condição de ser vossa, se diz a mim, um rendilhado no minha sensação, no sentimento do peito. Nesse minha voz, dois e suspiro, e na condição de ser vossa.
Adis, Manus, vivre billet. Tiges de coléus pour les ongles, crêtes d'araucaria et cordyline, paroles liant les clans dans la tristesse et dans l'allégresse, un deuil, un mariage, soupin colonnaire et cocotier, week-end ou jour de la semaine alcoolisé, qui finissent en taperas ou en bagarre, soirée pop, groupe pour faire la chaîne, virer en bagnole pour draguer, avant de rentrer, tabasser la compagne. Ce poème de Dewe Korode a été écrit en 1977 au camp Est, la prison de Nouméa, où l'auteur était incarcéré en tant qu'activiste indépendantiste. Le terme Adi, en langue païsie, désigne les monnaies de coquillage. Les manus sont des morceaux d'étoffe utilisés dans les échanges cérémoniels. Les taperas sont des chants religieux, protestants. Les soirées pop sont des fêtes avec danse et alcool. Et en français local, la chaîne désigne les viols collectifs qui marquent souvent de telles soirées.
Une société organisée par les hommes. Alors, moi, je veux bien revenir un peu sur qu'est-ce que ça veut dire, ça. Qu'est-ce que c'est que la domination des hommes dans une société ?
Alors, comment on définit une société à forte domination masculine ? En fait, une société où il y a une domination masculine, c'est une société où les femmes ont moins de pouvoir sur les hommes et sur le monde, sur leur société, que les hommes en ont sur les femmes et sur le monde, sur leur société. Donc en général ça s'incarne dans plein de choses, mais entre autres dans la division des tâches. Et à l'IFU on voit que tout ce qui est des zones de pouvoir sont des tâches masculines, c'est-à-dire le contrôle des armes, le contrôle des outils, tout ce qui est technique, et toutes les organisations politiques, donc toutes les organisations coutumières, les clans, les chefferies, tous les représentants sociaux et qui prennent des décisions, ce sont des hommes. Et tous les représentants religieux aussi. Donc en fait, c'est une société qui est organisée par des hommes, tandis que les femmes, elles sont... leur rôle, leur travail, c'est produire des enfants en grand nombre, les élever et les nourrir et s'occuper de la sphère domestique.
Et alors, c'est une remarque que je pourrais faire, mais j'entends aussi assez souvent dans d'autres contextes. Ça leur donne pas un certain pouvoir aux femmes de s'occuper des enfants ?
C'est quelque chose qui se dit souvent, d'ailleurs. C'est un discours qui est assez paradoxal, parce qu'en fait, c'est sûr que c'est leur zone d'activité, mais en fait, toute cette zone d'activité est soumise au pouvoir de décision des hommes, c'est-à-dire que les hommes contrôlent cette zone complètement. Et d'ailleurs... On dit que les femmes font par le mariage, par exemple, l'alliance entre les clans, mais elles sont objets de cette alliance. Ce ne sont pas elles qui les décident, ce ne sont pas des femmes qui décident cette alliance. Elles font le lien. Pareil pour les enfants, on pourrait se dire qu'elles ont un pouvoir sur les enfants, mais les enfants appartiennent à leur mari, au clan de leur mari. Donc comme on voit dans l'histoire de Wasija, c'est à la fois on les définit complètement dans cette zone et on les survalorise, c'est-à-dire la mère, il y a énormément de discours, de métaphores sur ça. et une femme qui remplit ses devoirs maternels et de travail dans la sphère domestique, elle sera très reconnue socialement et très valorisée. Elle pourra avoir une vie d'ailleurs très chouette, hein. Il y a beaucoup de femmes qui sont heureuses, heureusement. Ça sera toujours soumis au contrôle du mari, ça appartient au mari. Et donc, en fait, si une femme a un mari qui lui laisse une marge de manœuvre grande, et ben, on pourra dire que c'est une zone de pouvoir, mais comme il a totalement le droit, et le droit par de la violence qui est légitime, de les empêcher, d'imposer comment il veut que ça se passe, et ben c'est plus une zone de pouvoir dans ce moment-là, quoi, pour ces femmes.
Et peut-être, si on voulait aller plus loin, moi je dirais aussi que je réalise que ce soit une zone de pouvoir ou pas, c'est aussi une zone de pouvoir faible dans le sens où c'est la seule qu'elles ont, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est enfermant, elles n'ont pas le choix. Être une femme, c'est se limiter à faire des enfants, à s'en occuper, à nourrir son mari et sa famille. Et on peut dire que c'est un devoir. Et en même temps, c'est complètement bloquant, quoi. Si en tant qu'individu, on n'existe que par là, c'est quand même quelque chose qui est très enfermant et très limité. Et moi, ça me fait dire aussi, mais voilà, de toute façon, elles n'ont pas le choix. C'est peut-être comme chez nous aussi, à un moment donné. Hein. Est-ce que c'est si évident que ça, pour moi ou pour une quelconque femme en France, de se réaliser et d'avoir l'impression d'être allée au bout de ce qu'elle était si elle n'a pas eu d'enfant dans sa vie? C'est pas si évident, mais...
Et puis, en fait, à l'IFU, en plus, bien sûr, on éduque beaucoup les femmes à tenir ce rôle social, donc on les valorise là-dedans. Donc, une femme qui ne fait pas ça sera très dévalorisée. Mais c'est une image très paradoxale, en fait, la maternité. Par exemple, il y a une métaphore où on dit que les femmes sont comme Karetch, en fait, c'est la jeune feuille de bananier qui entoure le plat traditionnel qui s'appelle le bounia. En fait, c'est un plat où... on pose des feuilles de bananier, on met des légumes dedans et on fait un espèce de pliage qui retient le lait de coco qu'on met sur ces légumes et on cuit ça sous terre. Et en fait, cette feuille, il faut qu'elle soit pas percée, qu'elle soit forte pour que tous les éléments cuisent bien ensemble et dans le jus de coco. Et en fait, on dit donc ces femmes, elles sont comme cette jeune feuille, elles doivent chepen. Chepen, ça veut dire supporter, entourer. C'est-à-dire qu'elles doivent faire le lien entre tout le monde dans la famille pour qu'il y ait un bon goût, que la vie soit agréable et que la vie soit savoureuse avec les enfants, le mari, etc. Mais c'est aussi tout supporter et ne jamais percer. Parce que si un jour elle casse, elle lâche, et ben la vie va devenir insupportable pour tout le monde. Donc c'est une image qui est très enfermante. Et en fait, je pense qu'il y a une domination masculine à l'IFU. Parce que justement, il y a des verrous, en fait, de cette domination masculine. Que les femmes soient éduquées à devenir ça et se définissent comme ces mères qui vont tout supporter et qui doivent tout supporter, qui doivent se réaliser, s'accomplir en supportant tout, dans les sens positifs et négatifs du terme, et ben c'est un premier verrou. Le deuxième verrou que je vois, moi, c'est que, en fait, toutes les institutions coutumières et entre autres juridiques sont, comme elles sont contrôlées par des hommes, en fait... quand une femme a des difficultés avec son mari ou vis-à-vis des hommes, elle n'a pas de protection coutumière. Parce que, par exemple, là, Wasidja, quand elle se faisait frapper par son mari de façon qui aurait même pu paraître à la communauté trop forte, quoi, parce qu'on dit « Tchané, dresser la feuilleuse », c'est-à-dire tu peux, si ta femme n'est pas soumise, tu dois la dresser, donc tu dois la frapper. Mais quand elle réalise ses devoirs, qu'elle est soumise... tu dois pas la frapper outre mesure, quoi. Pas la blesser à ce point. Donc on pourrait se dire, pourrait y avoir un procès coutumier contre le mari. Mais le problème, c'est qui est-ce qui fait le procès coutumier? Ce sont que des hommes. Et parmi ces hommes, il y a des auteurs de violence qui vont pas se mettre à faire des procès sur d'autres, vu qu'eux-mêmes sont auteurs de ces violences. Ils vont pas, ils peuvent pas. Enfin, c'est pas possible. Donc ça maintient cette domination, le fait que la structure sociale soit contrôlée et décidée par les hommes. Il y a aussi, à mon avis, un verrou qui est vachement pernicieux. C'est que les femmes, au bout de leur vie, elles deviennent des vieilles femmes. Elles accèdent à un statut social Ou après avoir servi, énormément travaillé, fait des enfants, elles se font servir, donc toute leur vie, les femmes, elles triment, en se disant, quand je serai une vieille femme, je pourrai avoir de la reconnaissance sociale, être plus écoutée, qu'on me serve. Mais le problème, c'est que qui est-ce qui les sert? C'est les jeunes femmes, c'est toujours pas les hommes. Et donc, ce qui fait que les vieilles femmes, en fait, maintiennent finalement aussi ça, parce que, enfin, c'est relativement ambigu, d'ailleurs, mais parce que finalement, si elles veulent profiter d'un certain privilège, ça se fait encore au détriment des jeunes femmes.
Et moi, ça me fait penser, de manière plus générale, là, tu racontais cette histoire des vieilles femmes qui, par le pouvoir qu'elles exercent en tant que vieilles femmes, dominent d'autres femmes ou maintiennent une situation de soumission des jeunes femmes. Et peut-être on peut évoquer aussi... alors bon, moi, je sais pas, je vais pas trop en parler pour les Kanaks, parce que je connais pas bien, mais je vois ça aussi chez nous. Comment les femmes, de manière générale, quand ce sont elles qui ont en charge l'éducation des enfants, du coup, sont très actives dans la reproduction des structures sociales, c'est-à-dire d'en transmettre à leurs enfants, filles et garçons, leurs rôles différenciés. Par exemple, des mamans qui vont favoriser chez leurs filles de la douceur, de la soumission, le fait qu'elles doivent être gentilles, aimables, sérieuses, etc. Et puis, beaucoup plus encourager chez leurs garçons, le fait qu'ils peuvent s'exprimer plus fort, s'extravertir, crier, être bagarreurs, et privilégier ça. Et qu'elles sont très motrices de ça, encore plus peut-être parfois que leur mari, de cette construction, dans la mesure où c'est elles qui guident leurs enfants dans les premières années, ou qui contribuent très fort à leur éducation, qui sont dans une intimité avec leurs enfants, où elles ne remettent pas en cause cette éducation différenciée entre les petits garçons et les petites filles, mais plutôt elles vont le favoriser aussi, quoi.
Je vois, à l'IFU, il y a un peu un double discours des femmes, parce que d'un côté, déjà pour pouvoir transmettre autre chose, rompre un peu avec donc toute l'éducation qui fait que on maintient une situation, il faut déjà avoir conscience de cette situation. Donc je pense qu'il y a beaucoup ça qui fait que, et se révolter contre, c'est-à-dire avoir conscience que les femmes sont défavorisées et avoir le courage de se révolter contre. Donc ça, c'est déjà pas évident. Je pense que en France, c'est par exemple un des gros problèmes. Pourquoi il y a cette reproduction des schémas qui se fait malgré des avancées féministes, etc. Mais à l'IFU, par exemple, les grand-mères, elles ont un peu ce double discours, à la fois donc de maintien de la situation, parce qu'elles sont servies par les jeunes filles, mais à la fois, par exemple, avec leur fille ou leur petite fille, elle donne des conseils. Bah, elle dit « Soumets-toi à ton mari parce que ce sera plus facile, tu te feras moins frapper. Ta vie sera plus facile. » Mais d'un autre côté, par exemple, elle pousse très fort les jeunes filles à faire des études, à travailler, parce qu'elles se rendent bien compte que c'est elles peuvent gagner des zones d'autonomie comme ça, et elles voient que leurs filles peuvent avoir une vie meilleure comme ça, quoi. C'est-à-dire, c'est d'un côté, elles sont conservatrices, et d'un autre côté, où elles sont conservatrices aussi de façade. Il y a beaucoup de discours coutumiers où elles disent aux femmes, par exemple, pendant le mariage, c'est « Tu vas habiter chez ton mari, tu vas servir ta belle famille, tu vas servir ton mari, tu vas servir tes enfants, tu vas mourir là-bas, tu vas souffrir, mais tu vas résister. » Et tout un des discours coutumiers publics comme ça. Mais dans l'ombre, disent à leur belle-fille, « Ben, tu vois, telle personne dans tel clan, c'est, tu peux être ton allié. Si tu fais des choses avec lui, peut-être tu pourras travailler, et comme ça, tu seras pas dépendante de... que ce soit ton mari qui ramène de l'argent à la maison. » Enfin, il y a aussi plein de stratégies autres. Mais il y a aussi, je pense, un verrou de la domination masculine à l'IFU qui est très fort, c'est qu'il y a toute une représentation que les femmes sont dangereuses. C'est-à-dire que leur corps est dangereux, par exemple le sang des règles, c'est réputé polluer les communautés. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on dit que les femmes vont pas dans les réunions coutumières, parce que si elles ramènent le sang des règles, ça c'est dangereux, ça va ramener les mauvais esprits, ça peut faire toute une sorte, ça affaiblit la force des guerriers, ça fait plein de choses comme ça assez graves. Et il y a toute cette idée que les femmes sont du côté de la puissance, c'est-à-dire elles sont du côté de la terre, de l'enfantement, de la nourriture, donc qu'elles ont une certaine puissance, et que les hommes sont du côté de la maîtrise et du contrôle. Donc cette puissance est positive que si elle est maîtrisée et contrôlée par les hommes. Et on dit que c'est une certaine complémentarité. Enfin, les hommes disent que c'est complémentaire.
Ce que tu décris là, je trouve, ça fait vraiment, c'est quasiment identique à des choses que j'ai entendues dernièrement sur notre propre culture et comment les femmes peuvent être considérées comme dangereuses. J'ai lu il y a pas longtemps un texte qui montrait en gros le parallèle qui était fait notamment au 19e siècle en France, donc il y a un siècle, entre les foules, les masses populaires dangereuses, donc c'était à l'époque toutes les révoltes populaires du 19e siècle hein, en Occident, avec tous ces gens qui travaillaient à l'usine et la montée du socialisme et des révoltes ouvrières dans les villes. Et donc ce parallèle entre les foules dangereuses, les femmes dangereuses et les enfants dangereux. Où à un moment donné, c'était des populations qui étaient considérées comme du côté de la puissance, alors que les hommes et les hommes bourgeois étaient du côté de la civilisation. Et où du coup ces hommes bourgeois étaient en danger, mis en danger par les masses, par les foules, et devaient être dans une idée de contrôle et de maîtrise de ces populations, et pas forcément d'éducation, parce que l'idée de les éduquer, c'était leur donner un pouvoir qui allait renverser les hommes bourgeois. Donc il y a tout un imaginaire qui s'est développé autour de ça. Là, un exemple auquel je pense, c'est on parlait des communards tout à l'heure, à la fin du 19e siècle, la commune de Paris, et une des figures qui est restée très longtemps, qui a perduré dont on parlait souvent, c'était celle de ce qu'on appelait les pétroleuses, donc ces femmes communardes qui, quelques jours avant la fin de la commune, auraient traversé Paris en incendiant tout sur leur passage avec du pétrole, et qui se sont fait très brutalement réprimer pour ça. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment elles qu'on a réprimées, et est-ce qu'elles ont vraiment existé? Toujours est-il qu'on a, donc au moment de la répression, ils ont essayé de rafler toutes les femmes qui avaient du pétrole sur les mains et qui étaient accusées d'être des pétroleuses, à une époque où c'était surtout les femmes dans tous les foyers qui s'occupaient de la lumière, de remettre du pétrole dans les lampes à pétrole, et qu'en gros, toutes les femmes de Paris avaient du pétrole sur les mains. Donc ça a été un moyen de répression très fort pour juste rafler des femmes et les exécuter à la période de la répression de la commune. Et alors cette image des pétroleuses, des femmes dangereuses, des femmes contaminantes qu'il faut juste maîtriser et empêcher d'agir, pas forcément éduquer, moi ça me rappelle vraiment ce qui se passe en ce moment chez nous avec cette polémique sur le port du voile et sur comment à un moment donné on a diabolisé les femmes et les jeunes femmes qui portaient le voile, qui portent le voile dans nos écoles, en les assimilant à toute une population dangereuse en fait, c'est pareil. Les femmes qui portent le voile islamique, c'est comme cette population musulmane, arabe, des banlieues, étrangère, dangereuse, qui va venir contaminer et mettre en danger les petites têtes blondes de la République. Il y a tout un imaginaire pareil comme ça qui est extrêmement raciste et qui à un moment donné prend pour principale victime des femmes en les désignant comme des individus, des personnes dangereuses et instigatrice, porteuse d'une barbarie, quoi.
I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. And when they arrive, they say they can't interfere with domestic affairs between a man and his wife. And as they walk out the door, the tears well up in her eyes. Last night I heard the screaming, then a silence that chilled my soul. Prayed that I was dreaming when I saw the ambulance in the road. And the policeman said, I'm here to keep the peace. Will the crowd disperse? I think we all could use some sleep. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me. It won't do no good to call the police. Always come late if they come at all.
On parlait des femmes dangereuses. Alors moi, je voudrais un peu parler, pas uniquement des femmes dangereuses, mais des femmes qui se mettent en lutte, qui se battent pour reprendre du pouvoir sur leur vie. Voilà, quitte à parler de dangerosité, parlons-en de manière positive. Qu'est-ce qui se passe en Kanaky du côté des femmes?
Alors déjà, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que au sein des familles et individuellement, les femmes ont des stratégies de résistance. C'est-à-dire qu'elles peuvent trouver des techniques d'humiliation de leur mari, voire de réponses violentes dans certaines situations, faire des stratégies pour gagner de l'importance dans leur propre vie déjà individuellement. Et aujourd'hui, elles font de plus en plus appel au droit commun. C'est-à-dire elles se servent de droits conquis par des féministes françaises pour porter plainte contre des hommes violents, pour pouvoir divorcer dans des situations difficiles, etc. Et elles s'organisent aussi depuis les années 70-80 en association de femmes. Donc ça, c'est des groupes de femmes qui permettent aux femmes de village de sortir de leur foyer, de se réunir entre elles, de pouvoir parler de leur vécu, de partager un peu leurs conditions de femmes, de sortir de leur isolement du foyer. Et aussi, globalement, dans ces associations, elles revendiquent, donc c'est souvent des femmes de plus de 40 ans, hein, c'est la génération un peu avant la mienne, enfin, c'est... Donc elles revendiquent comme mère et comme personne importante dans la communauté en tant que mère, de prendre plus de pouvoir dans la communauté pour que la condition des femmes s'améliore et la condition de vie de tout le monde s'améliore.
Alors elles ont quel type de revendication pour ça?
Ben, par exemple, elles revendiquent d'avoir plus d'impact sur l'organisation de la vie du village, c'est-à-dire par exemple sur la propreté ou... Elles s'investissent aussi dans des actions de solidarité. Elles font des petites banques de prêts, ou elles organisent des bingos, aussi des jeux où se répartissent un peu l'argent dans les villages pour qu'il y ait moins d'inégalités économiques, etc. Mais aussi sur la condition des femmes, par exemple, elles font des manifestations contre les violences faites aux femmes. Et alors moi, au début, j'étais un peu choquée parce que... des femmes donc, qui faisaient des manifestations disaient, des vieilles femmes me disaient, nous on fait des manifestations pour que les maris ils arrêtent de taper bêtement leurs femmes. Donc moi je leur disais, mais parce qu'ils ont ils peuvent les taper intelligemment. Et en fait pour cette première génération, c'est déjà énorme déjà de dire qu'il y a de la violence et de mettre ce mot là sur ça, parce qu'on met pas ce mot là, enfin tout le monde sait qu'il y a de la violence, mais c'est pas grave. C'est une violence que je jugeais pas grave. Dire si c'est grave, ça nous fait souffrir psychologiquement et physiquement. Et donc déjà de le dire publiquement, c'est déjà quelque chose d'énorme. Et puis de prendre une parole publique, c'est aussi une première rupture vis-à-vis de leur situation. Et c'est aussi de dire de se prononcer contre le pouvoir marital despotique. Donc c'est déjà des choses qui sont énormes.
C'est-à-dire qu'il ne soit pas toujours légitime à taper.
C'est ça. C'est que... il ne puisse taper que si sa femme commet ce qui est considéré par ces femmes de cette génération comme des fautes graves, par exemple adultère ou alors de ne pas s'occuper de ses enfants, etc.
Voilà, c'est en même temps intéressant et effectivement en même temps assez horrible et effrayant, mais c'est aussi là où en sont ces femmes-là. Et...
oui,
et
puis c'est dans leur contexte culturel. Et il y a aussi beaucoup de femmes qui sont engagées dans les mouvements indépendantistes. Et qui sont aussi très critiques vis-à-vis de la situation des femmes chez elles. Et donc c'était assez dur pour les femmes de s'engager dans les mouvements indépendantistes. Enfin, en fait, il y a toujours eu des femmes engagées, c'est-à-dire qu'elles faisaient la cuisine et elles ont beaucoup financé les mouvements indépendantistes. Mais de pouvoir être dans les décisions et dans la lutte et sur la scène publique, c'était déjà beaucoup plus difficile. Et il y a des femmes donc, qui sont engagées et qui sont d'ailleurs aujourd'hui très connues, très importantes dans les luttes kanak. Et ces femmes-là, elles sont dans une optique non pas d'un féminisme occidental, c'est-à-dire elles ne cherchent pas à suivre les formes de féminisme qu'on a pu connaître en France, elles sont pas dans une idée, par exemple, de l'épanouissement personnel d'une femme, d'une individu femme, mais elles sont plus dans l'idée de réinventer la tradition kanak, de reprendre des éléments de leur culture, de pouvoir prendre, s'inspirer d'éléments d'autres cultures aussi, pour qu'il y ait l'avènement d'une société kanak actuelle qui aille bien. Et il y a à la fois ce truc, enfin je m'en souviens d'une femme d'Ewegorodé qui est très impliquée dans les luttes kanak, qui est une indépendantiste très connue, qui avait dit cette phrase à un homme, elle lui avait dit vous les hommes vous comportez comme des colons avec vos femmes, donc c'est une critique très radicale, et à la fois de dire mais moi je défends mon peuple, ma culture, on pourra réinventer les rapports entre nous qu'à partir, enfin en même temps que d'accéder à une autonomie et une indépendance si la pression civilisatrice coloniale française capitaliste est moins forte. Et d'ailleurs elle reprend, enfin il y a un slogan de Jean-Marie Tjibaou, qui est un leader indépendantiste qui a été assassiné et qui est très connu aussi, qui disait la coutume elle est devant nous, c'est-à-dire qu'il y a toute une idée non pas de garder un système kanak antérieur, mais plutôt de faire un système kanak qui actuel quoi, et qui soit libéré de l'oppression coloniale française.
Alors tu m'avais donné un exemple lors d'une discussion pour préparer ce dialogue. C'était une histoire de robe kanak qui est comme ça un signe d'une réappropriation.
Ouais, alors la robe kanak en fait c'est une robe qui a été imposée il y a 100-150 ans par les missionnaires. C'est-à-dire, c'était une robe qui cachait les parties, enfin le corps des femmes, parce que, comme on le sait, le corps des femmes doit être caché au regard des hommes, parce qu'elle appartient à un homme et à un seul. D'ailleurs, c'est exactement le même principe que le voile islamique.
Aux chrétiens.
Aux chrétiens, c'est-à-dire qu'il faut cacher le corps des femmes parce qu'ils appartiennent à certains hommes, ils sont appropriés par certains hommes, il ne faut pas que d'autres hommes puissent les voir. Et c'est une robe, en fait, qui aujourd'hui a été réappropriée par les femmes, qui est avec des couleurs, des tissus polynésiens, et aussi les formes, les tissus, il y a des décolletés, maintenant des tissus plus transparents, etc. Et qui est devenu le signe d'appartenance à une communauté, mais qui s'est détaché pas mal de toute cette image de cacher le corps des femmes, enfin de tout l'aspect chrétien des choses, ou alors parfois non, mais c'est surtout c'est une fierté quand on est kanak de porter ce signe d'appartenance culturelle, de dire non, on va pas se faire occidentaliser, nous restons kanak quoi qu'il arrive.
Ce que je trouve intéressant avec cet exemple, c'est de revenir sur la notion de symbole quoi, le voile islamique ou la robe kanak ou d'autres symboles encore, comment ce ne sont que des symboles et comment le sens des symboles il est donné par des personnes qui sont derrière ces symboles et qui les portent, choisissent de les porter. Et que de la même manière, à un moment donné, ce qui va être, par exemple, dans notre regard à nous, dans mon regard, un symbole, par exemple, d'oppression ou d'aliénation, ou je ne sais quoi, bah, si je parle avec les femmes qui portent ces symboles, elles vont peut-être en dire autre chose. De la même manière que pour avoir parlé avec des femmes qui portaient le voile islamiste, en me questionnant dessus sur cette histoire de polémique contre le voile à l'école en France, plusieurs femmes ont pu témoigner qu'elles le portaient pour revendiquer leur appartenance à un moment donné à une religion, à une communauté et un choix, et que c'était aussi pour elles un moyen d'émancipation. De la même manière que pour certaines femmes, porter un string ou une mini-jupe, ça va être se réapproprier son corps et l'affirmer, alors que pour d'autres, ça va être un élément au contraire de soumission à un fantasme masculin, de correspondre aux codes et aux normes de la femme telle qu'elle doit être pour plaire, etc. Et que donc le symbole, il est flottant et qu'il faut s'attacher à voir comment les personnes qui les mettent en place les définissent avant d'avoir des jugements catégoriques ou une nouvelle fois de vouloir émanciper des gens à leur place.
Et puis des femmes, parce que c'est souvent des hommes qui veulent émanciper des femmes à leur place. Enfin, c'est quand même des gouvernements masculins français qui ont cette volonté qui encore regarde le corps des femmes et le considère comme potentiellement dangereux. Enfin, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais moi, ça me fait penser cette histoire de robe kanak, en fait, à mon expérience personnelle, parce que moi, je porte la robe kanak quand je vais en Kanaky. Et à Nouméa, donc, qui est une ville encore où il y a beaucoup de racisme et de ségrégation, quand je sors avec la robe kanak, ça fait un effet fou. Dans la rue, c'est les blancs qui me voient en robe kanak, c'est il y a des réactions très très violentes, c'est pas du tout facile. C'est comme si en fait je trahissais ma race ou ma classe en apportant une robe kanak. C'est comme si je m'alliais à un peuple qui serait sauvage. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'en général, on croit que je me suis encanaquée, on dit ça comme ça, c'est-à-dire que je me serais mariée avec un homme kanak, donc soumise à ces barbares, etc. Et ce qui est très drôle, enfin très drôle, c'est pas drôle du tout, c'est complètement significatif du racisme ambiant, c'est que une femme kanak qui se marie avec un homme blanc, c'est bien, et puis on se dit, ah, tiens, elle va se libérer et tout ça, alors qu'une femme blanche qui va se marier avec un homme kanak, c'est très mal perçu, c'est quand même, elle peut pas faire ça, enfin c'est assez mal vu, quoi.
Finalement, ça, cet exemple, il montre la double présence du patriarcat et du racisme dans nos mentalités blanches occidentales françaises, puisque d'une part un homme va émanciper une femme alors qu'une femme va s'abaisser à un homme. C'est vraiment une manière de, voilà, de concevoir ce patriarcat et cette différence entre les hommes et les femmes. Et puis d'autre part, il y a un racisme évident derrière, puisque d'un côté on aurait une société, une culture évoluée et civilisatrice, et puis de l'autre, des barbares. Et quand même, c'est assez parlant, quoi.
Ouais, et effrayant. Mmh.
El alma se me fue el corazón. Ya ya no tengo ganas de vivir, porque no te puedo convencer que no te vendas, Roxana.
Femmes qui prenaient un mari canac et qui du coup s'en canaquaient. Et alors, si des femmes canac ou pas canac d'ailleurs, hein, cherchaient à s'enfranciser ou sans s'occidentaliser ou sans colonialiser, bref, je sais pas comment on dit, mais alors, plutôt ma question c'est quelle place on laisse dans notre société pour des femmes qui y viennent ou qui y sont.
Ouais, alors on voit avec l'exemple de Wasidja en Nouvelle-Calédonie que des femmes qui rompent un peu avec leur famille et cherchent en fait dans des villes occidentales un peu à retrouver plus de liberté, que finalement elles se retrouvent confrontées à trois types d'oppression. L'oppression raciste, c'est-à-dire, enfin, comme on la connaît, une dévalorisation, un accès beaucoup plus difficile à tous les biens sociaux que des blancs, enfin qu'une blanche. Il y a aussi une oppression capitaliste, c'est-à-dire que sans formation, pas formée à la compétition, elle se retrouve dans des emplois extrêmement difficiles, sous-payés, exploités par des familles ou par des industries. Et elle se retrouve encore dans une espèce de modèle d'oppression sexiste, c'est-à-dire qu'on les engage en général dans des domaines dits féminins, et elle se retrouve encore dans la sphère domestique à refaire les mêmes travaux finalement qu'elle faisait avant, dans des conditions d'exploitation parfois pires que quand elles étaient mariées.
Peut-être la différence, mais je sais même pas si c'est une différence intéressante, c'est qu'elle travaille comme ça pour des patrons blancs alors qu'avant elle travaillait comme ça pour leur mari.
Et en tout cas moi ça me fait penser aussi à toutes ces à des amies ou à des femmes de Kanaki ou d'ailleurs qui croient à un moment à l'idéologie qu'on diffuse bien en France, que comme on aurait des droits, les droits de l'homme en France, on serait, les hommes et femmes seraient égales et égaux et les blancs et les noirs aussi, et qui viennent en France dans cet espoir là un peu et qui se confrontent à l'inégalité de fait en fait. Qui fait qu'elles sont dans des situations de grande précarité. Par exemple, des femmes qui arrivent en France sans formation, elles se retrouvent pour pouvoir se loger ou se nourrir dans des situations de prostitution passive, c'est-à-dire elles trouvent un petit copain qui les héberge contre des services sexuels et de l'entretien domestique. Et ça, c'est aujourd'hui en France, c'est très très fort, quoi.
Peut-être on peut essayer de trouver de quoi conclure sur cette histoire.
Ouais. Moi je voulais conclure sur ce truc que on a toujours tendance à parler des inégalités hommes-femmes loin, parce que donc nous on serait bien sûr égales et égaux, et des inégalités et l'oppression des femmes ça serait ailleurs et loin. Et moi je voulais parler de mon ressenti en Kanaki, c'est-à-dire que je suis allée dans une société qui est patriarcale, parce qu'il y a des sociétés qui sont bien moins patriarcales que nous traditionnellement aussi, mais cette société, donc il y a quand même une forte oppression des femmes. Et par certains côtés, moi, je me suis sentie bien plus libre en tant que personne et en tant que femme là-bas, par plein de côtés. Par exemple, sur tout ce qui est regard au corps, rapport au corps, moi, je me suis sentie extrêmement tranquille là-bas, alors qu'ici, on me fait quotidiennement des remarques, je suis complètement envahie par la publicité, par des injonctions sur mon corps qui sont extrêmement fortes. Ou alors, aussi là-bas, par exemple, on ne me drague pas ou on ne fait pas de remarques sexistes, c'est considéré comme des choses extrêmement humiliantes et donc on ne le fait pas, et c'est des choses où je me sens bien plus libre.
Enfin, tout ça pour dire que avant d'aller voir comment il y a des inégalités hommes-femmes ailleurs dans le monde, ça me semble très important de regarder chez soi comment ces inégalités se déploient, parce qu'elles sont encore très fortes en France aujourd'hui. Et surtout, c'est très différent, je pense, que des mouvements féministes français soutiennent des mouvements de femmes ou féministes ailleurs dans le monde qui ont leur propre façon de revendiquer des choses dans leur contexte culturel. C'est très différent pour moi de ces institutions qui veulent développer les autres sociétés en leur imposant un mode de vie occidental, finalement, ou qui s'en rapprochent. Et en plus, il y a des institutions, soi-disant des droits de l'homme, qui sont soutenues par des pouvoirs militaires et économiques extrêmement écrasants et encore extrêmement colonisateurs. Donc, moi, je voulais finir sur un peu cette phrase de Coluche que j'aime bien, c'est de dire, oui, nous, dans l'idée, on fait les droits de l'homme, on est toutes et tous égales et égaux. Ça, ça vaut à travers dans la France, c'est-à-dire qu'on se gêne pas pour reproduire des inégalités à l'extérieur. Et dans la France, on se voile bien la face sur les inégalités qu'on produit, parce que quand on est femme noire et pauvre, eh ben, on est moins égaux que les autres.
Voilà, donc on va vous laisser avec un morceau de Lesbian en Ecstasy, et le morceau s'appelle Révolte. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir.